débutons avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Exit l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Il faudra vous familiariser avec l'AEUMC pour accord économique États-Unis-Mexique-Canada. Ottawa et Washington sont parvenus à un accord cette nuit. Le Canada devrait limiter désormais ses exportations de voitures vers son voisin et ouvrir son marché laitier. En échange, les États-Unis acceptent de maintenir tel quel le mécanisme de règlement des différends auquel les Canadiens tenaient beaucoup.
À la une encore, les normes anti-pollution que veut imposer la Commission européenne. Berlin prend les devants aujourd'hui.
Réunion entre le gouvernement d'Angela Merkel et les constructeurs économiques. Il en sera également question de ces normes anti-pollution ce soir à Paris. Emmanuel Macron dîne avec les constructeurs automobiles avant l'ouverture du mondial de l'auto à Paris. L'Indonésie lance un appel à l'aide internationale après le tremblement de terre suivi d'un tsunami qui a frappé l'île des Célèbes, faisant au moins 832 morts. Cela fait partie des changements en ce 1er octobre. Les cotisations salariales chômage vont disparaître des bulletins de salaire. Coup de pouce pour le pouvoir d'achat, nous en parlerons dans un instant.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, la prochaine crise mondiale viendra-t-elle de la hausse des taux d'intérêt? On posera la question à Christophe Nijdam, ancien banquier et analyste bancaire.
C'est in extremis qu'un nouvel accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada a été publié cette nuit, 90 minutes seulement avant l'ultimatum fixé par Donald Trump dimanche minuit pour déchirer l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain qui datait de 1994. Un compromis avait déjà été trouvé avec Mexico il y a plus d'un mois. Il fallait encore rallier Ottawa pour trouver un nouvel accord tripartite. C'est désormais chose faite, un front de moins, Loïc Loury, dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump.
Depuis son élection, Donald Trump en avait fait l'une de ses cibles favorites. L'ALENA, synonyme, selon le président américain, de millions d'emplois perdus, en particulier dans le secteur automobile. Justement, c'était l'un des points critiques entre Washington et Ottawa. Et au final, eh bien, le Canada devrait limiter désormais ses exportations de voitures vers son voisin. Parmi les autres volets négociés jusqu'à la dernière seconde, le Canada accepte d'assouplir ses quotas laitiers, seconde concession. En revanche, c'est un point technique sur lequel Ottawa ne voulait pas transiger. Le système actuel d'arbitrage des litiges commerciaux restera identique. Ce sont des comités indépendants qui sont chargés de régler ces conflits entre gouvernement et entreprises. Enfin, c'est une première, un chapitre consacré à l'environnement. Elle sera inclue dans ce nouveau traité. Ces dernières semaines, la signature d'un tel texte avait semblé s'éloigner. Les Canadiens répétaient que pas d'accord valait mieux qu'un mauvais accord. Et cette date butoir, par ailleurs, n'était pas la première. Désormais, le texte va donc pouvoir être voté par le Congrès américain et Donald Trump peut se concentrer un petit peu plus sur sa guerre commerciale avec la Chine.
Et sur un autre front commercial en Allemagne, cible favorite de Donald Trump pour ses excédents commerciaux, l'Allemagne, premier pays exportateur européen de voitures aux États-Unis, menacée de surtaxes douanières, Berlin s'attaque aujourd'hui à un autre problème, lutter contre la pollution des véhicules diesel anciens. Que faire des 9,5 millions de voitures concernées, menacées d'interdiction dans des dizaines de centres-villes du pays? Les constructeurs automobiles pourraient-ils mettre la main à la poche via des primes pour acheter des modèles plus récents? Réunion aujourd'hui avec le gouvernement d'Angela Merkel pour parler de ce dossier. Angela Merkel qui étudie plusieurs pistes, David Philippot.
Une des possibilités offertes serait de permettre au conducteur d'un vieux diesel de l'échanger contre un modèle neuf, plus propre, avec à la clé des primes payées par Mercedes, Volkswagen et BMW. Mais selon les dernières informations, le gouvernement et les constructeurs se chamaillent encore sur le montant de cette prime incitative. Autre sujet de discorde pour ceux qui n'ont pas les moyens d'échanger leur voiture, ce serait de savoir à quelle hauteur les constructeurs financent le catalyseur qui limite les émissions de leur diesel. Volkswagen a fait un pas dans cette direction, mais les autres semblent plus réticents à suivre la voie du premier constructeur mondial. En tout cas, le gouvernement, et c'est l'une des seules certitudes dans ce dossier fumeux, souhaite solliciter au minimum le portefeuille du client. Angela Merkel veut même que ce soit gratuit pour l'installation du catalyseur. On verra si la chancelière, contestée pour son manque d'autorité, réussit à l'imposer au lobby le plus puissant du pays.
Et lui aussi se retrouve aujourd'hui face aux constructeurs automobiles. Emmanuel Macron reçoit ce soir à l'Élysée patrons français et étrangers avant l'ouverture du mondial de l'automobile à Paris. Au-delà des très bons résultats pour le secteur français, le chef de l'État abordera les sujets qui fâchent l'aura du lieu.
Oui, Emmanuel Macron veut attirer les constructeurs en France. Il lorgne notamment du côté de Tesla qui cherche à s'implanter en Europe. Mais il aura face à lui des patrons mécontents des normes anti-pollution que veut imposer la Commission européenne. Les constructeurs automobiles n'auront plus le droit d'ici 2020 de produire des voitures émettant plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre. Un objectif qui ne plaît pas beaucoup aux industriels car pour l'atteindre, pas le choix. Il faut électrifier les véhicules. Or, cela coûte cher, les marges sont moins importantes. BMW a déjà prévenu ses actionnaires qu'il fallait s'attendre à une baisse des bénéfices à cause de ces nouvelles normes. L'argument des constructeurs est simple, le temps politique n'est pas le temps industriel. La transition vers des véhicules électriques et hybrides est longue, même si le français Renault est plutôt en avance, surtout sur les petits véhicules, tandis que PSA mise sur des voitures hybrides rechargeables à l'horizon 2019. Enfin, autre difficulté que pose cette transition, l'emploi. L'industrie automobile représente 450 000 emplois en France, 13 millions en Europe. Et construire des véhicules électriques nécessite moins de pièces que pour les voitures à moteur thermique et donc forcément sur le long terme moins d'emplois.
Et le comité des constructeurs français d'automobiles l'annonce ce matin, les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 12,83% en septembre, contre-coup du déstockage observé en août avant le durcissement des normes d'homologation.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Une fosse commune a dû être creusée aujourd'hui sur l'île indonésienne des Célèbes.
Pour enterrer les 832 personnes au moins qui sont mortes après un séisme suivi d'un tsunami, une fosse commune afin de prévenir les risques sanitaires alors que les sauveteurs tentent encore de sortir des survivants des décombres. Le gouvernement indonésien a lancé un appel à l'aide internationale tant l'île des Célèbes est ravagée. Le récit sur place de Joël Brunner à Palu.
Palu est une ville sinistrée que les habitants qui le peuvent font tout pour fuir. De quoi créer sur les routes environnantes encore praticables un véritable sentiment d'exode. Sur place, la ville en partie vidée de ses habitants est encore à genoux, à l'image des nombreux bâtiments qui se sont écroulés sous la violence conjuguée du séisme puis du tsunami. L'arrivée à Palu, au milieu de la nuit, dans des rues sans électricité et derrière les vitres teintées d'une voiture, n'est pas très impressionnante, jusqu'à sortir par hasard du véhicule au milieu d'une rue et à se retrouver nez à nez avec un gigantesque bateau échoué là, dans une odeur d'océan qui prend à la gorge et un paysage de destruction gigantesque tout autour, que l'on croirait tout droit sorti d'un film catastrophe. Ce matin, sur la plage, une des zones les plus durement touchées par le raz-de-marée, des objets épars, une chaussure à talons, un parapluie d'enfant, des portes, des fenêtres, des débris en tout genre, et au milieu, quelques scooters qui se frayent un chemin dans les gravats qui jouxtent des arbres à terre et des bâtiments largement effondrés. Près de l'eau, certains habitants se tiennent un foulard sur le visage pour se protéger de l'odeur nauséabonde des lieux que la chaleur et l'humidité n'arrangent en rien. Une sorte de mélange de relents d'océan et de pourriture. Devant le centre de distribution de nourriture de la ville, le Korem 132 Tadulako, des dizaines de personnes sont rassemblées devant le bâtiment géré par les militaires. La tension est palpable, des pillages ont notamment eu lieu la veille, et certaines personnes réunies là crient régulièrement qu'elles ont faim. Eau, nourriture, électricité, essence, il faut dire que Palu manque à présent un peu de tout.
Joël Brunner en Indonésie pour France Culture. Les gardiens de la révolution en Iran annoncent ce matin avoir attaqué un quartier général de terroristes en Syrie à l'aide de missiles balistiques. Représailles à l'attentat meurtrier qui avait frappé le 22 septembre dernier la ville iranienne d'Avaz. Retour en France avec du neuf sur les bulletins de salaire en ce 1er octobre. La fin des cotisations salariales chômage pour augmenter le pouvoir d'achat. Mais est-ce réellement un coup de pouce pour le pouvoir d'achat, pardon? Explication de Delphine Simon.
Depuis le 1er janvier, les salariés ne payent plus de cotisations maladie. À partir d'aujourd'hui, ils ne paieront plus de cotisations chômage. Après une première baisse en janvier, cette contribution salariale disparaît elle aussi définitivement. Ne reste plus que la part supportée par l'employeur, 4% environ. Il s'agit de compenser l'augmentation d'1,7 point du taux de CSG survenu en début d'année, une hausse de salaire net de 258 euros par an pour un smicard et les gains seront mentionnés sur les bulletins de paie en espèces sonnantes et trébuchantes, histoire de bien faire passer le message. À noter que ces calculs ne valent que pour les salariés du privé. Les indépendants ont des mesures spécifiques. Quant aux fonctionnaires, ils n'ont qu'une simple compensation à la hausse de CSG. En ce mois d'octobre, certains reçoivent aussi leur avis pour les impôts locaux. Avec une taxe d'habitation allégée pour la première fois de 30%.
Et parmi les autres changements, en ce 1er octobre, la hausse de 3,25% du gaz pour les tarifs réglementés appliqués par Engie à 4,5 millions de ménages. Les partisans du oui insistent sur les 90% qu'ils ont remportés. Ses adversaires relèvent la forte abstention. C'est un résultat en clair-obscur qui est né du référendum visant à changer le nom de la Macédoine en République de Macédoine du Nord. Il s'agit là de clore le conflit avec la Grèce et de rapprocher ce petit pays des Balkans. Camp de l'Union européenne et de l'OTAN. Là, c'est un conflit qui date d'un siècle. La Bolivie, pays enclavé qui n'a pas d'accès à la mer, et ce depuis une invasion chilienne, une guerre perdue par les Boliviens en 1883. La Bolivie veut récupérer un accès maritime. C'est l'une des batailles du président Evo Morales et il a amené le litige qui l'oppose donc au Chili jusqu'à la Cour internationale de justice qui doit rendre un avis aujourd'hui. La correspondance en Bolivie d'Alice Campagnol.
Aujourd'hui, tous les yeux des Boliviens sont tournés vers La Haye. Enfin, après 5 ans de procédure, la Cour internationale de justice va trancher. Dans leur arrêt, les juges internationaux diront si le Chili doit négocier de bonne foi un accès souverain à la mer pour la Bolivie. À aucun moment, donc, le tribunal des Nations Unies ne pourra forcer le Chili à concéder des côtes à son voisin bolivien, mais pourra lui ordonner cependant de s'asseoir à la table des négociations. En effet, les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues depuis 1978 et la question maritime est au cœur de la discorde. Selon Evo Morales, le fait de n'avoir pas accès à la mer est un frein à la croissance du pays, à ses échanges commerciaux et à son ouverture au monde. Mais ici, beaucoup voient dans la demande maritime un objectif beaucoup moins noble pour le président bolivien, récupérer un peu de popularité et pouvoir ainsi se faire réélire l'an prochain, lui qui brigue un 4e mandat alors qu'en principe la Constitution l'interdit. Mais le chef de l'État s'est défendu la semaine dernière à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Le conflit entre la Bolivie et le Chili pour un accès à l'océan Pacifique ne peut pas être ramené à des objectifs conjoncturels, récents, d'ordre politique ou électoral. Il remonte aux origines même de ce différend territorial qui date de la fin du 19e siècle.
Du côté du Chili, le traité international signé en 1904 a tout réglé. Il n'y a plus matière à discuter. Les autorités chiliennes l'ont exprimé à plusieurs occasions. Ils ne céderont pas un seul centimètre carré de leur territoire.
Alice Campagnol en Bolivie pour France Culture. Le temps de ce lundi marqué par des averses et des orages, notamment dans la moitié est de l'Hexagone. Les températures sont comprises ce matin entre 5 et 10 degrés sur la moitié nord du pays. Comptez de 7 à 16 au sud. Cet après-midi, il fera entre 13 et 17 degrés sur la moitié nord, 16 à 20 en général au sud, jusqu'à 25 près de la Méditerranée. Guillaume Erner.
Merci beaucoup Catherine Dutu. 7h12 sur France Culture.